Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce tout premier numéro de votre émission Le QG de l'Actu, l'année 2026. Oui, nous sommes entrés de plein fouet dans 2026, l'année 2025 qui donc s'achève avec son lot d'événements heureux, mais également d'événements malheureux. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'année qui vient de s'achever. Il s'agit de 2025 et rétrospectif donc de 2025 et nous allons également nous projeter vers l'année 2026. Nous savons très bien que lors de son discours à la nation, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a donné le ton par rapport à cette année 2026 qui commence chez nous. Nous allons justement revenir sur les rétrospectives de 2025, les perspectives de 2026 et nous allons enchaîner avec le discours, comme le discours habituel, sinon traditionnel, du chef d'État, le président de la transition, le général Assimi Goïta, qui s'est adressé à la nation. C'était le soir du 31 décembre 2025. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ce discours du président Assimi Goïta? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Badi Aïdara. Il est statisticien, il est également analyste politique. Monsieur Aïdara, bonsoir.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
C'était un plaisir, Monsieur Aïdara. Alors, deuxième invité de ce débat, Amadou Odialo, il est journaliste. Monsieur Diallo, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Troisième invité, Badou Sidi Koba, journaliste également. Monsieur Badou, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Tout le plaisir est pour vous.
C'était un plaisir de partager. Abdallah Yattara, fidèle au poste, un consultant formateur. Monsieur Yattara, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Traoré. Merci pour l'invitation.
Merci à vous. Je disais tantôt, nous sommes donc en 2026. Nous sommes entrés dedans en plein pied il y a quelques jours de cela. C'est l'occasion pour nous de donner en tout cas à ce public ici la parole afin que chacun d'entre eux puisse souhaiter ses voeux à l'endroit non seulement de ceux-là qui regardent le QG de l'actu, mais aussi au peuple malien. On va commencer par, je pense, le plus jeune.
Si jamais. Oui, bien évidemment. Avec tout honneur. En tout cas, mes meilleurs voeux pour l'année 2026, déjà pour la chaîne du Luba TV qui nous permet de nous exprimer dans ce cadre-là, tout le travail nécessaire en arrière-plan au niveau des techniciens pour que les émissions se réalisent. Nous remercions davantage la chaîne pour créer ces espaces d'expression. Au-delà de la chaîne, c'est l'ensemble des auditeurs qui suivent du Luba. J'espère que Duriba aura davantage d'auditeurs avec des programmes rénovés, avec des innovations. Les médias au Mali ont besoin de renouveau, d'innovation dans les grilles, dans les formats des émissions. Et nous vous encourageons dans ce sens. Et à l'ensemble de la population, 2025 a été rude. Qui parle de ces difficultés-là, on est obligé de parler de la crise du carburant qui est venue s'ajouter à la crise énergétique. Et donc, c'est le lieu de saluer l'effort des Maliens. Ils nous semblent, malgré ces difficultés, n'ont pas perdu leur joie de vivre, leur humeur et la bonne entente, même si on a vu quelques couacs, quelques comportements asociaux qui ont émergé durant ces crises-là.
Merci pour ces voeux, M. Aïdara. À la suite, M. Diallo, vos voeux à l'endroit du peuple malien.
Bon, le premier vœu, c'est d'avoir l'adresse de Luba TV et les spectateurs et téléspectatrices de Luba TV. Au-delà de Luba TV, c'est le Mali et le monde entier. Alors, je profite de l'occasion pour adresser mes sincères voeux, les meilleurs pour tous les Maliens. Au Mali comme à l'extérieur, à ma famille, à mes amis et à tout le monde. Et surtout que ça soit une année de santé, de prospérité, de réussite, mais surtout de paix, de retour de paix dans notre pays, de cohésion et d'entente. Le Mali traverse des moments très difficiles depuis presque plus d'une décennie maintenant. Parce que nous, on n'arrive pas d'avoir à nous comprendre. C'est à cause de ça que l'extérieur peut trouver toujours moyen à s'infiltrer dans nos problèmes. Donc il faudrait que nous-mêmes, qu'on apprenne à s'aimer, à s'accepter dans nos différences. Le monde est fait tel que il n'y a pas d'unanimité. Dieu même qui a créé le monde ne fait pas l'unanimité. Donc le minimum de consensus est nécessaire dans tout projet, dans tout ce que les hommes font. Il faut un minimum de consensus pour que ça marche. Donc je souhaite que chacun de nous fasse violence sur soi-même et accepte la différence et accepte la tolérance et comprendre que l'enjeu va au-delà de nos individus, au-delà de nos personnes individuellement, parce qu'il s'agit de la survie de notre nation. Et quand ce genre de questions sont posées, je pense qu'on doit faire l'effort de comprendre et de s'engager. Il faut, le Mali aujourd'hui a besoin d'engagement. Et je souhaite que 2026 soit une année d'engagement, engagement collectif pour sauver le Mali, pour sauver le Mali des impérialistes, pour sauver le Mali de nous-mêmes. Et sur ce, je dis bonne heureuse année 2026.
Merci, merci M. Diallo Badou Sidi Koba.
Il faut dire que les eaux du Djouliba ont été très mouvementées par la télévision Djouliba. Il est utile de la rappeler. Et je profite de votre plateau pour présenter mes vœux de bonheur et de prospérité à l'ensemble du peuple malien. Au passage, je salue toute l'équipe de Djouliba TV News qui fait un travail merveilleux. Et je ne saurais terminer sans rendre un grand hommage aux nobles autorités de la transition qui sont à la tête d'un pays de sang royal, d'un pays de guerriers, d'un pays millénaire qui a toujours su faire face à l'adversité. Je pense que le Mali ne date pas d'hier. Nous fîmes, comme le disait le président Ibeka, le Mali est une vieille nation d'un vieux continent, le continent africain. Et le Mali, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est pourquoi j'ai toujours demandé aux Maliens de prendre soin du Mali. Il faut connaître la valeur du Mali pour comprendre que le Mali est ce pays-là qui a toujours su faire face à toutes les invasions étrangères, y compris la colonisation. C'est pourquoi le Mali fait trembler l'ensemble du monde dès qu'il y a des événements au Mali. Vous avez vu le 26 mars 1991. Vous avez vu quand Ibeka a été élu en 2013. Soumaïla Cissé et sa famille se sont déplacés pour aller lui rendre hommage. C'est ça le Mali, c'est la fraternité éternelle. Donc, puisse Allah fasse que les Maliens puissent se comprendre. Et que 2026 soit une année de paix, de prospérité, et que le Mali redevienne un havre de paix pour l'ensemble du peuple malien.
Merci Bado. Nous avons commencé par le plus jeune. J'ose croire que nous allons enchaîner par le plus âgé, si non. Je ne m'abuse. Hein. Je passe sous le contrôle de Amadou Diallo. En tout cas, on va s'y d'accord. À vous l'honneur pour finir.
Ouais, donc, merci. Je crois que bonne heureuse année à tout le Mali, du nord au sud, d'est à l'ouest, sans exception aucune. Et surtout, je souhaite que 2026 soit le retour définitif de la paix. Et que cette insécurité puisse maintenant rentrer dans l'histoire, et que le Mali puisse retrouver le chemin de l'émergence, et que tous les Maliens, sans exception, puissent s'unir, se donner la main. C'est uniquement dans l'union, dans la solidarité, qu'on peut relever les défis. Et sans union, on ne peut jamais relever les défis. Je souhaite que les Maliens puissent s'unir, se donner la main, et avec les autorités, qu'on puisse relever les défis de l'insécurité et du retour sur la paix.
Oui, l'union fait la force et la désunion provoque la faiblesse, comme le dira l'autre à notre tour. Hein. C'est aussi souhaiter une bonne heureuse année à tous les téléspectateurs de Djouliba TV d'ici et d'ailleurs. Vous l'aurez compris, l'année 2025 a été une année très éprouvante pour nous, compte tenu de la suspension qui a pénalisé toute l'équipe, cette jeune équipe, mais dynamique, mais également dévouée. Vous l'aurez compris, ceux qui sont habitués sur nos plateaux savent très bien que, en tout cas, c'est une équipe très jeune, hein, mais une équipe très engagée qui est au four et au moulin pour que vous soyez satisfaits, servis partout où vous êtes. En tout cas, nous leur souhaitons à toutes ces femmes, à tous ces hommes, une bonne heureuse année, à la direction, à sa tête, le PDG. Voilà, le silencieux, c'est comme ça que je le surnomme souvent. Alors, il ne parle pas, c'est quelqu'un qui est la cheville ouvrière de tout ce qui se passe. C'est l'occasion pour nous, au nom de l'ensemble du personnel, de souhaiter en tout cas une bonne heureuse année au PDG et à travers lui, tout le personnel de Djouliba, souhaiter en tout cas une bonne heureuse année à la diaspora malienne, voilà, qui nous suit à travers nos différentes émissions. Nous osons croire que l'année qui commence va être en tout cas une année de consolidation, comme ça a été dit par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ce serait également une année de la conquête du bien-être, mais également du progrès. C'est en ces termes, justement, que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avait conclu son discours à la nation. Si on nous en croit que, en tout cas, tous ces vœux seront exaucés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci dit, nous allons retenir et revenir dans ce débat pour parler justement de l'année 2025 qui vient de s'achever. Oumar Odialo, qu'est-ce que l'on peut retenir dans l'ensemble, hein? En tout cas, vous êtes journaliste, vous êtes en tout cas constamment en contact avec la population. Qu'est-ce que vous retenez de l'année 2025 qui vient de s'achever?
Ce qu'il faut essentiellement retenir de 2025, c'est la résilience des Maliens. J'ai été particulièrement surpris de constater les Maliens accepter de souffrir, des Maliens marcher des kilomètres pour aller travailler parce qu'il n'y a pas de carburant. Cette image-là reste gravée dans ma tête parce que ce n'était pas donné d'avance. La perturbation des corridors d'approvisionnement du pays en hydrocarbures a marqué 2025 de tous les sauts. Vraiment, il n'y a pas de difficulté qu'on puisse parler au-delà de ça. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'énergie, c'est pratiquement aujourd'hui un élément essentiel de la vie. Les hydrocarbures, l'essence pour les engins, le gasoil pour les engins, aujourd'hui, rien ne peut le remplacer. C'est vrai, ce n'est pas une créature de Dieu, c'est une créature des hommes. Ce sont les hommes qui ont fabriqué la machine et ce sont les hommes qui ont fabriqué le carburant pour le faire marcher. Et aujourd'hui, les machines ont pratiquement supplié les hommes. Donc du coup, celles sans lesquelles on ne peut pas vivre, si celle-ci ne marche pas, c'est que c'est notre vie même qui est pratiquement... Mais malgré tout, les Maliens ont supporté ça. C'est vraiment une image qui reste gravée. Et je pense que le président de la transition ne cessera jamais, ne doit jamais cesser de remercier les Maliens. Parce qu'on a frôlé, il faut le dire, il faut appeler le chat par son nom, on a frôlé un coup d'État. Parce que l'objectif des terroristes et leurs sponsors, c'était faire tomber le régime. Et il n'y a pas mille manières, il n'y a pas mille manières de faire tomber un régime que par ça. Parce que tout le monde allait se lever comme un seul homme et se dresser derrière, en face du pouvoir. Parce que les gens, leur vie étant telle qu'ils n'avaient plus le choix. Mais heureusement, les Maliens ont compris. Et les Maliens ont dépassé. Et aujourd'hui, on est en 2026. Donc, c'est vraiment ça, c'est en entrée de la matière, je pense que ça, c'est l'image la plus remarquante de 2025. Je m'en arrête là d'abord.
D'accord. Alors, oui, il a été beaucoup marqué par cette résilience des Maliens compte tenu de la crise que le pays a connue par rapport à la crise du carburant. Il est vrai, le président de la transition, le général d'armée aussi en a parlé, il a surtout salué, si vous voulez bien, le patriotisme, mais également la résilience du peuple malien. Alors, M. Abdallah Yattara, si vous devriez revenir en tout cas un peu sur l'année 2025, quels sont les faits qui vous ont le plus marqué en cette année 2025 qui vient de s'achever?
En fait, 2025 a été émaillé par beaucoup d'événements et qui sans doute vont marquer... qui vont marquer l'histoire et qui peut-être traceront les chemins pour l'avenir du Mali. Et on peut peut-être les disséquer en six points, sur le plan politique diplomatique, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la justice, sur le plan économique et infrastructure, et sur le plan sport, culture et intégration. Je vais juste citer deux actions par thématique. Quand vous prenez la politique, ça a été d'abord marqué par le plan d'action gouvernementale que le Premier ministre a présenté et qui, dans sa présentation, présentait beaucoup d'espoir, mais qui, dans l'exécution, dans le second semestre, s'est confronté à beaucoup de difficultés, notamment jusqu'à présent, les 9 000 agents pour sécuriser les services routiers n'ont pas été effectifs. Et jusqu'à présent, nous avons promis 19 heures sur 24. Donc, en termes de fourniture d'électricité, on est à 6 heures maintenant. Donc voilà. Et quand on parle aussi toujours sur le plan politique, il y a aussi ce qu'on appelle la concertation des forces vives de la nation qui a abouti à la dissolution des partis politiques et à l'abrogation de la charte des partis politiques. Ça, c'est vraiment un événement. Et depuis l'avènement de la démocratie, on peut considérer ça comme un événement vraiment majeur. Et actuellement, nous sommes dans l'audit des partis politiques aussi qui a aussi marqué cet événement-là. Et j'ai tiré l'audit des comptes certifiés de la section des comptes de la Cour suprême. Aussi l'élaboration aussi de la charte de la paix aussi. Quand on pense sur le plan sécuritaire, comme l'a dit le Premier ministre, ça s'est émaillé, ça s'est transformé par un changement de mode opératoire. Effectivement, on a été confronté à des attaques coordonnées, neuf attaques coordonnées. Jusqu'à présent, les chefs-lieux de région étaient épargnés. Mais derrière, Kaï et Nuro ont été attaqués dans les attaques coordonnées, ce qui était une première. Et sur le plan sécuritaire aussi, il faut noter quand même des points positifs. Plusieurs chefs terroristes ont été neutralisés. Et puis il y a eu des réductions aussi de la part non seulement de certains terroristes, mais aussi de certains membres des mouvements armés aussi, qui ont déposé les armes, qui ont rejoint les femmes. D'accord. Et ça a été aussi émaillé par aussi la radiation des officiers pour présumer tentative de coup d'État. Donc pour revenir à la justice, c'est là où on a vraiment marqué beaucoup de points. Par exemple, l'affaire de l'avion présidentiel, l'équipement militaire a été finalement jugé. L'affaire Paramount, qui concerne aussi les équipements militaires, aussi est en cours de jugement. Et deux anciens premiers ministres, il faut le noter, pas des moindres aussi, ont été arrêtés. Et donc, mais surtout, il y a aussi l'adoption du nouveau code pénal, du nouveau code de procédure pénale, avec effectivement beaucoup d'innovations, entre autres l'imprescriptibilité des crimes économiques et aussi la criminalisation de l'homosexualité. Sexualité. Aussi, il faut noter que le Mali aussi, au cours de l'an 2020, s'est retiré de la Cour pénale internationale. Donc, ça aussi, c'est des événements majeurs. Bon, économiquement, ça s'était marqué par quoi ? Par en fait, l'inauguration de la deuxième usine de lithium et la première pierre de l'usine de raffinerie. Et fait marquant aussi, c'est que la majoration de 15 points de la valeur indiciaire et qui doit être effectif au 1er janvier 2026. Ça aussi, c'est un fait marquant. D'accord. Et puis, l'entrée en vigueur aussi des taxes mobiles. Et puis, pour aussi améliorer le plateau sanitaire, toujours dans l'économie, on a posé la première pierre par rapport à 15 CCRF qui seront transformés en hôpitaux du district. Donc pour finir, effectivement, il y a eu le sport et la culture. Pour la première fois en basket, le Mali est arrivé en finale de la Coupe d'Afrique senior homme. Et ce qui ne s'est jamais arrivé. Et pour finir, l'intégration, effectivement, avec l'AES, et le deuxième sommet s'est déroulé ici à Bamako, avec effectivement l'opérationnalisation de la banque d'investissement, d'accord, l'opérationnalisation aussi de la force unifiée de l'AES, et aussi le lancement de la télé AES aussi. Voilà en fait les grands événements qui ont marqué l'année 2025.
D'accord, donc c'est ce que vous retenez justement de cette année 2025 qui s'achève. Vous parlez tantôt de la fourniture du carburant, de l'électricité, pardon, qui avait été. En tout cas, c'est 19 heures qui avait été promis. Vous parlez des 6 heures. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, on voit au-delà des 6 heures parce qu'il y a quand même une nette amélioration.
C'est par endroit.
Par endroit, d'accord. Voilà. Tant mieux que cela puisse continuer. Oui, Badi Haidara, qu'est-ce que l'on peut retenir de façon globale de cette année 2025 qui s'achève?
Ben, écoutez, quand on fait le bilan de l'année 2025, peut-être il va falloir prendre un peu de recul plus tard et remettre un certain nombre de choses dans leur contexte. D'accord. Mais on ne peut faire un bilan de l'année sans parler de la guerre. Nous sommes en guerre, il y a un certain nombre d'opérations et l'année 2025, on peut dire vraiment c'est l'année où on commence à avoir un tournant où la guerre est vraiment globalisée au niveau AES, avec la vision des chefs d'État de renforcer davantage. On sait déjà qu'en 2024 et avant, il y a eu des opérations coordonnées, des collaborations ci et là, mais des collaborations momentanées ne font pas une vraie intégration, une vraie globalisation de l'espace AES. Donc on rentre dans cette nouvelle phase. Je pense que c'est un tournant sécuritaire aussi à plusieurs égards. L'événement avec l'Algérie, la rupture des éléments liés à l'accord d'Alger et les éléments qui se sont passés à Tenzawaten et la création du FLA. Pourquoi je parle de tous ces éléments? Ça me permet de glisser dans le volet diplomatique. Il y a eu un changement de doctrine quant à la résolution de la crise au Sahel. Auparavant, on faisait la différence entre des mouvements dits rebelles, sécessionnistes, en trouvant des justifications sociologiques, politico-économiques, en remettant en cause l'État central dans sa capacité à subvenir aux besoins des populations du septentrion. Et ensuite, il y avait les terroristes d'une part. Donc, étant donné qu'on était dans ce schéma, la MINUSMA venait pour s'intercaler entre nous et ces mouvements rebelles qui sont légitimes, qu'on met au même niveau que l'État central. Et donc, cette rupture a été consommée. Ça nous a permis de voir qui se cache derrière ces rebelles-là, qui les appuie, qui sont leurs soutiens, etc. Et donc, les armées de l'AES avancent dans leur restructuration. L'événement majeur, c'est vraiment la frappe lors de la réunion constitutive du FLA. Je ne sais pas si c'est en 25 ou 24, je sais que ça date un peu, mais c'est la preuve que nous avons des armées non seulement qui s'équipent, mais qui se renseignent. Vous avez vu au Nigeria, les Américains ont dû intervenir, entre guillemets, sous accord du gouvernement pour faire des frappes, pour cibler des cibles terroristes. Et bien, quand on voit des pays africains qui arrivent à avoir des renseignements nécessaires sur des réunions constitutives et faire des frappes en toute autonomie avec nos drones, on comprend que, là que malgré toutes nos difficultés, nous sommes sur la bonne voie. Nous n'avons pas encore une armée au top vis-à-vis des enjeux de notre territoire. Des petits pays qui ont moins d'enjeux ont plus d'hommes, plus d'équipements que nous, donc nous avons un retard à rattraper. Et je vais finir sur le volet économique. Ce qui paraît étonnant, et là je rejoins mon grand frère Diallo, c'est que la résilience des Maliens dont il parle, là où on la constate vraiment, c'est au niveau des chiffres macroéconomiques et des prévisions, malgré cette situation. Normalement, une telle pénurie de carburant doit amener une récession très forte. Or, les prévisions pour 2025, ce n'est pas finalisé encore. 2025 qui vient de passer, les calculs ne sont pas finalisés encore. Mais on a quand même la croissance qui est plus élevée, qui sera plus élevée que 2024. Et 2026 s'annonce encore plus. Cela démontre que malgré les obstacles et malgré l'importance du carburant pour le tissu économique, les acteurs ont trouvé des solutions alternatives. Dans la difficulté, certes. Dans les problèmes, certes. Mais on a vu que les gens se sont arrangés. J'en veux pour preuve des soudeurs qui sont dans des rotations de nuit, ont transféré leur travail la nuit. Quand tu faisais des commandes, ils travaillaient la nuit quand ils avaient le courant. C'est une situation difficile, mais ça démontre qu'on a une capacité de résilience forte. Et comme Ibé l'a dit, l'hiver noir, les difficultés qui arrivent, ça c'est un premier test.
Une capacité de résilience, mais aussi d'adaptation, parce que quand même, les Maliens se sont adaptés à la circonstance, aux conditions qui ont prévalu à ça. Oui, M. Badou Haïdara, rapidement, 2025. Badou Silikouba, je vais dire rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir de 2025?
Ce qu'on peut retenir de l'année 2025, c'est qu'en tant qu'homme de culture, l'année 2025 a été l'année de la culture, conformément au VEDI, président de la transition, chef de l'État, le général Dramé Assimi Goïta. Il faut dire que la culture est la mémoire collective des peuples. Et pour cela, beaucoup de rues ont été rebaptisées. Des monuments ont été érigés à l'honneur de nos illustres guerriers. Ensuite, il y a eu la biennale artistique et culturelle de Tombouctou qui a été couronnée de succès à raison de la situation sécurisée. La biennale s'est bien passée malgré les menaces qui ont été proférées par les groupes terroristes. Et comme je l'ai dit, les légitimités traditionnelles ont été revalorisées. Une façon de dire que, culturellement parlant, le Mali est un grand pays de culture. La preuve, le président Ibe Kar, en son temps, père à son nom, a été reconnu comme étant le parrain de la culture de l'Union africaine.
Champion des arts.
Hein? Champion des arts. Merci pour le rappel. Ensuite, il faudrait rappeler que sur le plan économique, il faudrait noter les bons points du Fonds monétaire international qui a dépêché une délégation pour constater de visite les évolutions qui ont été constatées. Il est vrai que les budgets des institutions ont augmenté. Il est vrai aussi que, quelque part, il y a eu des failles. Mais globalement, on peut dire que la situation a été maîtrisée, d'où la satisfaction du groupe d'action financière GAFI. Maintenant, sur le plan sécuritaire, il faut dire qu'il y a eu des avancées. Je me rappelle bien, le 22 septembre 2025, il y a eu un imposant défilé militaire, une façon d'adresser un message ferme et clair à l'endroit de tous les ennemis du Mali. pour défier ce défilé militaire, les terroristes ont décidé de déposer un blocus sur le Mali. Mali les en a pris. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez un soulier courir, il faut le suivre. Il n'a pas entendu la vie. Sauf que ces tabacs ne suivent pas au peuple malien. Le peuple malien a bravé les pénuries de carburant. On a vu les rats, et malgré les rats, malgré toutes les difficultés, le peuple malien a compris qu'il faut une solidarité agissante pour faire barrage à ces ennemis de la nation et à leurs supports étrangers. Et ça a été couronné de succès. Le peuple malien a compris et la pénurie de carburant est en passe d'être résolue. Maintenant, sur le plan économique, les touristes ont changé également de posture en s'attaquant à des gens comme disait Estouston vers Bafoulabé, en s'attaquant à Béwani, à Seribala, à Bougabou. Malgré tout, le peuple malien est resté debout comme un seul homme. Une façon de prouver que c'est un pays millénaire, c'est un pays qui a toujours su surmonter toutes les adversités. Au-delà de cela, il y a eu d'autres couacs. L'arbre ne doit pas casser la forêt, il y a eu d'autres couacs. C'est vrai que les touristes se sont un peu dispersés dans la nature, jusque dans le secteur de Lulumi. Mais là, il faut comprendre qu'ils ne sont plus en mesure d'attaquer nos bases militaires, nos casernes militaires. Donc, ils s'attaquent aux paisibles populations. Ils essaient d'intimider les populations psychologiquement. Cela a été compris par nos autorités. Mais il y a des chemins à faire. Il y a des chemins à faire en ce sens qu'il faut rester vigilant. Il faut doubler de vigilance. Il faut continuer à combattre les touristes sur le plan sécuritaire. Sur le plan économique aussi, il y a des efforts à faire. Surtout sur le plan de la sécurité alimentaire. Parce que l'année 2025 a été difficile en raison de la pénurie de carburant, en raison des attaques terroristes. Donc l'État doit changer à cela. Et l'État doit aussi changer à l'emploi des jeunes, à l'autonomisation des femmes, conformément aux vœux des chefs d'État de l'AES. Pour terminer, le grand frère Abdallah a marché sur ma langue en parlant des adversaires de l'AES. Et surtout, j'insisterai sur la force unifiée de l'AES, dont le couronnement a été la liquidation de Hugo, dont la tête avait été mise à prix par les Américains, et la liquidation du cousin d'Algabas à Guintala dans la forêt classée du Baoulé.
Très bien. Monsieur Diallo, oui. C'est bien beau d'entendre en tout cas toutes ces réalisations, ces progrès, même si, Badou l'a rappelé tantôt, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Tout cela ne serait possible sans en tout cas un climat apaisé, parce que quand on parle de développement, il faut parler de stabilité. Et qu'en est-il du pacte social? On a quand même vu à ce niveau qu'il y avait quand même une certaine accalmie à ce niveau-là.
Effectivement, c'est vrai, là où on est aujourd'hui, 2025 s'achève sur un climat relativement apaisé. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de petits soubresauts, mais c'est contenu dans un système tel que le consensus national soit quand même préservé et faire en sorte que le pays puisse vivre une certaine paix et évoluer pour atteindre certains objectifs. En tout cas, pour le moment, le climat social, moi, je pense que c'est maintenu, c'est maîtrisé. C'est vrai, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. La lecture est différente d'un segment à un autre. Parce que quand on demande certains acteurs politiques, ils vont trouver matière à discuter. Effectivement, il y a matière à discuter sur ce plan. Mais moi, à mon avis, la vie, c'est une question de priorité. Aujourd'hui, il s'agit de poser la question, la problématique, faut-il, oui ou non, aller vers une ouverture politique tous azimuts, comme ça a été le cas, au risque de perdre l'acquis, jusque-là qui a été réalisé sur le plan, en tout cas, sécuritaire. Parce que le soubresaut à l'intérieur du pays, le mouvement des acteurs hybrides de terroristes, à travers le pays, c'est normal. C'est normal parce que le pays est tel qu'il y a trop de forêts. Donc, du coup, ils ont des facilités par endroit parce qu'on ne peut pas mettre à chaque mètre carré un policier ou un garde ou un gendarme. Donc, ils ont des possibilités de s'infiltrer dans le pays. Mais globalement, on a réussi quand même à mettre dehors les sponsors qui étaient en dessous, qui les accompagnaient. Là, c'est les forces étrangères, les forces d'occupation sous le couvert des Nations Unies, mais qui opèrent dans l'ombre pour soutenir ces forces terroristes. Aujourd'hui, quand même, on a réussi à les dégager du pays. Et ça, c'est un acquis important, en tout cas, à mettre à l'actif. Et moi, s'il y a un point, un seul point qui met de satisfaction pour moi dans la chute des IVK, c'est ça. parce que je ne suis pas sûr que avec Ibeka on aurait pu accès à obtenir en tout cas le départ des forces étrangères. Et si on ne les avait pas obtenues, ils allaient faire, enfin elles allaient faire comme ils ont fait ou en RDC. Vous voyez, quand le président a parlé de départ des forces des Nations Unies, ils ont profité pour livrer Goma et autres aux rebelles. Bon, c'était évident que si aussi au Mali, avec le régime démocratique, le régime politique, si on est au cas où on était tenté d'aller, ils allaient faire la même chose. Mais heureusement, on a réussi à les faire partir parce que le régime politique n'est pas là. Si aujourd'hui et jusqu'à présent, et moi je suis convaincu, le retour des politiques aux affaires, ce n'est pas exclu, en tout cas que ces gens-là reviennent encore, ce n'est pas exclu. Parce que les intérêts convergent. Moi, pendant les moments de combat, il y a des gens qui m'ont dit, les moments de, disons, dans les mouvements populaires, là, il y a des gens qui m'ont dit, ah, les gens parlent de la France dehors. Pourtant, c'est un acteur, hein, un grand acteur qui, de M5. Il m'a dit, ah, moi, je ne suis pas favorable parce que j'ai des intérêts. Ça, c'est un témoignage. Je vais taire le nom de la personne, mais la personne m'a dit ça en confidence. Bon, donc vous voyez jusqu'où on peut aller dans la complicité. Donc moi je dis aujourd'hui, c'est vrai, il y a des petits problèmes, mais l'essentiel c'est de sauver la nation. Parce que la démocratie, c'est pourquoi ? La démocratie, on parle de démocratie, pourquoi ? C'est pour le bien-être. Mais le bien-être n'est possible que lorsqu'on est dans un territoire apaisé. Et si la nation... Parce que le bien-être, ce n'est pas dans le ciel, ce n'est pas un objet abstrait qui se promène dans la nature. Le bien-être, c'est un état de vie concret des hommes sur un territoire donné. Ce territoire-là, c'est ça, aujourd'hui, le problème. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. On agresse des pays parce qu'ils ont des sous... Dieu les a dotés des ressources importantes. Et récemment, ce n'est pas encore loin, récemment, Emmanuel Macron, dans son adresse au lancement de son projet jeune volontaire militaire, là, il a dit le monde aujourd'hui est un monde de non-droit, c'est un monde où la guerre se conjugue au présent. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'une agression internationale. Donc, il s'agit de prendre tout ça en jeu, c'est-à-dire de prendre conscience de tous ces enjeux et comprendre que nos pays qui sont fragiles, il est important qu'on se maintienne, qu'on soit ensemble, qu'il y ait un consensus entre nous, en tout cas pour sauver notre territoire.
D'accord. Sauver notre territoire, M. Abdallah Yattara, il se réjouit s'il y a un fait qui, en tout cas, le réconforte par rapport au départ d'Ibeka, c'est surtout cette attitude que les autorités ont dû adopter, à savoir mettre hors de nos frontières les forces onusiennes qui, pour lui, ce sont des forces d'occupation. Et pour lui également, hein, les politiques peut-être n'auraient pas reçu, là où les militaires aujourd'hui ont quand même fait des prouesses. Commentaire là-dessus.
Le Mali, en 2005-2025, je crois que c'est 65 ans d'indépendance. Et sur 65 ans, je crois que 38 sont pour les militaires. Vous comprenez? Donc, et le Mali n'est pas tombé en 91 avec les militaires, avec les civils, avec les politiques. C'est un militaire qui était au pouvoir. En 2012, c'était un militaire qui était au pouvoir, Amadou Toumani. Le Mali, dans ces deux cas, ce ne sont pas les politiques qui ont géré, M. Diallo. Et je tiens à vous dire que Ibeka a pensé une solution qui aurait pu pour lui paraître la meilleure. C'était peut-être de faire amener l'aménagement. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut se tromper sur son choix. Il n'a pas fait ça de mauvaise foi. Vous comprenez? Et je dis, si Ibeka a été réélu en 2013, a été élu en 2013, c'est sur la base de sa gestion de la primature de 6 ans avec Alpha Omar qu'on a réclamé. Parce qu'on savait que c'était un homme intègre. C'est parce qu'il a été élu en réalité. C'est pas sur des propositions politiques qu'il a été élu. Mais c'est par rapport à son intégrité. Parce que le Mali en réalité avait besoin d'un homme comme lui en 2013. C'est pas qu'il ne pas une élection voulue. C'est le Mali qui l'ont choisi. Et les Maliens de tous bords, que ce soit les militaires, que ce soit les civils.
comprenez. Et c'est sur la base de son intégrité, de sa gestion de la primature des 6 ans avec Alphonse Macron qui a été élu. Malheureusement, j'ai dit tout simplement que l'âge et l'entourage ont raison de lui. Voilà un homme, peut-être que je peux qualifier d'irremplaçable. C'est vrai, il n'y a pas d'homme irremplaçable. C'est vrai, le cimetière est rempli de personnes qu'on disait indispensables. Mais je vous dis, Ibeka, c'est surtout l'âge et la maladie qui ont raison de lui. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, ne mettez pas tout à l'actif de politique. Il faut redresser la barre. En 91, 90, 91, les politiques n'étaient pas là. En 2012, les politiques n'étaient pas là. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. Les militaires ont géré ces pays-là 38 ans sur 35. Moussa Traoré, 23 ans. Amadou Toumanturé, 10 ans. Et les 5 ans de la transition. Enlevé ça à 65 ans. On ne mettait pas tout le compte de la politique. Nous avons géré ensemble ces pays-là. Les politiques, les civils, les militaires. Le bilan, là, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour les politiques.
D'accord. Ce n'est pas pour les politiques. Apparemment, les jeunes aussi veulent réagir par rapport aux propos d'Abdallah Yattara.
Non, si je remets notre discussion dans la perspective du thème rétrospective 2025, moi, je ne vois pas le problème en termes de les militaires ont gouverné tant, les politiques ont gouverné tant. C'est une grille d'analyse de premier degré de l'évolution politique dans nos pays. Et politique, toute personne qui gère les affaires publiques, directement ou indirectement, c'est-à-dire qui gère lui-même ou qui a de l'influence sur la destinée du pays. Que tu sois militaire, une fois que tu es dans cette tâche, tu t'occupes de la chose publique, la chose politique. Maintenant, là où je suis d'accord avec le grand frère, et je vais reformuler, s'il me le permet, d'une autre manière, quand il dit « avec la classe politique, ça n'aurait pas été possible », je reformulerais de cette manière. Avec une classe politique d'une certaine idéologie, ça n'allait pas être possible. Maintenant, on a une autre classe politique au pouvoir qui est d'une autre idéologie. On ne dit pas que quelqu'un est de mauvaise foi, ou quelqu'un est traître, ou quelqu'un est valet de tel ou tel pays. C'est ce auquel il croit. Il y a des gens qui ont cru, qui continuent à croire que sans la France, rien n'est possible. Je vais vous donner une anecdote. Pendant que Bandaou était président, Assimi Goïta vice-président, il y a une manifestation de Yerewolo auquel nous on a participé. Avant d'aller à la manifestation, je suis allé saluer des oncles et des parents à la maison. On m'a demandé où est-ce que tu vas. Je dis on va lutter pour que Barkhane et autres partent. C'est tous des grands intellectuels maliens qui ont occupé de grands postes, qu'on a l'habitude d'appeler grands hommes politiques, grands commis de l'État. La majorité d'entre eux nous ont dit, m'ont dit, je me rappelle de cette phrase, vous ne pourrez rien contre la France. La France est très puissante. La France est ci, la France est cela. Je comprends, c'est les séquelles de la colonisation. On comprend. Maintenant, nous, notre génération, on va venir régler tout ça. Des fois, c'est facile de juger les gens d'avant, mais ils ont grandi avec ces idéaux dans leur tête et le savoir n'était pas accessible. C'est facile de faire de l'anachronisme. Nous, actuellement, nous avons cessé de croire à ce narratif. C'est le temps qui donnera raison. Point de dire que quelqu'un est vendu. Mais comme il l'a dit, avec la classe politique de l'idéologie pro-otanienne, pro-française, bien évidemment que ça n'allait pas être possible. Parce qu'ils croyaient que c'est tous ces dispositifs qui allaient amener la paix. Okay. Donc c'est une différence de point de vue.
D'accord.
On jugera 10-15 ans après. Mais tout le monde connaît ma position ici. Je suis pro-sud global.
D'accord.
Je vais juste faire comprendre à Abdallah. Non, il n'a pas compris en fait ce que je veux dire. Je n'ai pas voulu. Mon intention, ce n'est pas d'opposer les politiques aux militaires.
Okay.
Mon intention, ce n'est pas de comparer les politiques et les militaires. Non, j'ai dit s'il y a quelque chose de positif. Parce que moi, je suis franchement contre. Je n'étais pas favorable aux manifestations qui ont conduit à la chute des IBK. Parce que j'ai dit, si on est dans un schéma politique, on s'est battu pour un objectif, pour un idéal politique, un idéal démocratique. Ça, c'est l'élection comme mode d'accession au pouvoir. À partir du moment où les gens sont morts pour ça, en 91, le 22, le 23, le 24 mars 91, les gens sont morts. Nos camarades sont morts à côté de nous. Moi, j'aurais pu ne pas être là aujourd'hui. Mais
À l'époque, on était jeunes, on pensait même pas à la mort, et puis on ne pensait même pas aux conséquences de la mort. On sert à manger pour un idéal démocratique.
D'accord.
Moi, je suis frustré. Je suis un homme frustré. Et comment se fait-il que des gens qui nous ont mis en route, disons, qui nous ont mis dans la rue pour combattre un régime, encore au XXIe siècle, en 2024, disons en 2020, d'abord en 2012, ensuite en 2020, se battent pour amener le pays à un coup d'État? C'est grave. J'ai honte de voir des personnalités politiques associées à ça.
D'accord.
Ceux-là qui nous ont fait sortir, nous on était jeunes, ils étaient matures, ils nous ont mis dans la rue pour combattre le régime de Moussa Traoré. Aujourd'hui, moi je regrette Moussa Traoré sur plusieurs points. Je l'ai dit et je l'assume. Moi je regrette Moussa Traoré sur plusieurs points. Parce que la corruption dont on parle, à l'époque il y avait des slogans. Il y avait des slogans phares. Le FMI, vous connaissez le FMI? Ce n'est pas le FMI de Washington. C'est le FMI, la famille Moussa Traoré est intime.
Okay.
Le slogan c'était ça, la famille Moussa Traoré est intime. Tous ceux qui ne sont pas dans cette trilogie-là n'étaient pas associés au pouvoir.
D'accord.
Et nous, on a cru. On a parlé de favoritisme, à bas le favoritisme, à bas le népotisme. Ça, c'était des slogans qu'on entendait à ce moment.
Donc vous aurez souhaité voir d'autres...
Aujourd'hui, au temps de Moussa Traoré, le quartier le plus chic, c'était Hippodrome. Et la villa de Ségouli, derrière le fleuve, était citée en exemple, comme un truc de corruption. Mais aujourd'hui, à ces 2000, là où on est aujourd'hui, n'était pas là. C'était des champs à l'époque.
D'accord.
C'était des vergers.
D'accord.
Donc, moi, pour dire tout simplement, et moi, je dis,
okay.
Ibeka ne restait que 2 ans pour finir son mandat. Les Maliens auraient pu attendre. Maintenant, le côté positif, et ça, je suis convaincu de ça, le côté positif qu'on peut tirer de sa chute,
d'accord.
Ça, c'est réussir à dégager. Parce que moi, je n'étais pas d'accord.
Okay.
Je n'étais pas d'accord à l'arrivée des forces étrangères chez nous. Parce d'accord. que je me dis, les moyens qu'on donne, c'est-à-dire que ce qu'on met à la disposition de ces forces étrangères, si on donnait ces moyens-là à nos hommes, d'accord. on aurait pu combattre. Et donc, pour terminer, je vais dire à mon frère, non, il ne s'agit pas de comparer.
D'accord.
Parce que dans la comparaison, il y a toujours des choses, des éléments subjectifs qu'on ne peut pas prendre en compte. Donc, moi, j'ai dit tout simplement, non, ce n'est pas ça, mais tout simplement, on aurait pu mieux faire.
On aurait pu mieux faire, d'accord. C'est ce qu'on retient de vous rapidement. Monsieur Badou Sidi Koba, vous êtes décrivé comme un homme de culture. Il est vrai que l'année 2025 a été, en tout cas, décrétée année culturelle, selon, en tout cas, le vœu du président de la transition, et ça s'est concrétisé avec l'organisation de la Biennale. Vous êtes aussi journaliste, monsieur Badou Sidi Koba. Qu'en est-il de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion en 2025?
Il faut dire que la liberté d'expression, la liberté d'opinion a pris un coup en ce sens que notre confrère Alphonse Togo du journal Le Canard de la Venise l'a appris à ses dépens parce qu'il a séjourné à la MCA pendant au moins un mois, il a été relaxé. Saïd Oumar Traoré, il a séjourné en prison. Il y a eu d'autres cas. Il y a eu des cas d'intimidation, des cas de menaces, etc., etc. Mais ça ne se comprend pas. Mais j'ai suivi une interview du président de la transition de l'État où il dit que chacun a sa façon de voir les choses. On ne peut pas empêcher quelqu'un de s'exprimer. Ça m'a fait plaisir. Il dit qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de s'exprimer, de donner son opinion, son point de vue par rapport à la vie de la nation. Il dit voir du commentaire de tout un chacun. Et ça, c'est une réalité. Il l'a dit, j'ai écouté. Bon. Sauf que... la réalité sur le terrain est tout autre. Ça peut ne pas être lu. Vous savez, nous sommes dans un pays où souvent il y a les excès des ailes. Pour pouvoir faire plaisir à X ou Y, okay. Il y a certains qui s'adonnent à des pratiques peu catholiques.
D'accord.
Maintenant, ce que j'aimerais ajouter à l'année 2025, il y a eu des effets d'annonce qui n'ont pas été peut-être concrétisés, on ne sait pas pourquoi. Par exemple, le Premier ministre, quand même, qui est militaire, qui est général de division, si je ne me trompe pas, a parlé du recrutement de 9000 hommes. Ne serait-ce que la mise en place d'une police municipale pour un peu soulager les forces gouvernementales qui font un excellent travail sur le terrain. Il a parlé de la route Sévaré-Gao, la route Bamako-Kaï, Bamako-Kenyeba, jusqu'à la frontière sénégalaise, parce que c'est un symbole d'unité nationale. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'unité nationale. Et sur le corridor Dakar-Bamako, si les citernes ont réellement des problèmes, parce que les citernes roulent doucement à la vitesse de l'escalade. Moi, j'étais à Dabia il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de route. Donc il faudrait que les autorités changent à tout cela. Maintenant, pour terminer, je ne veux pas sortir du contexte de l'année 2025. Il faut dire que sur le 20 janvier 1961, il faut dire que le 20 janvier 1961, je le précise, c'est un homme politique qui a déshabillé la France en demandant l'évacuation de toutes les bases militaires françaises se trouvant sur le territoire malien, y compris Tessalit, le camp de Hamachat. Ça, c'est un certain Modibo Keïta.
D'une certaine idéologie.
D'une certaine. Il était socialiste quand même. Et en 2012, il faudrait le rappeler, c'est à la demande d'un homme politique qui a eu l'opération Serval, le professeur Diongouna Traoré. Et à présent, il n'arrive pas à s'exprimer. Si François Hollande est sorti pour dire sa part de vérité, le Mali attend toujours la part de vérité du professeur Diongouna Traoré. Maintenant, pour terminer, pour tout simplement dire que ce soit les militaires, que ce soit les politiques, chacun à un moment donné a péché. Mais il s'agit avant tout du Mali. Sinon, Ibeka, je suis un grand admirateur d'Ibeka, parce que je me rappelle bien quand Chirac est parti à Dakar, quand il a demandé au chef d'État d'aller et le trouver à Dakar, je crois qu'il était Alpha Omar Konaré en son temps, en tant que panafricaniste, avec son premier ministre, ils ont dit non, nous ne pouvons pas nous rendre à Dakar. Il faudrait aussi rappeler que lors de la conférence de cadre de Tombouctou pour terminer en 1995, le coopérant de la Confédération helvétique s'est levé avec ses limites pour dire à Ibeka que si les circonstances de la mort de Jean-Claude Berber ne sont pas élucidées, la Suisse va suspendre sa coopération avec le Mali. À l'époque, Ibeka était voyant, jeune, fougueux, notre bon premier ministre, et là, même s'est levé et a dit non, non, la Suisse n'est pas obligée d'aider le Mali. Le Mali n'a jamais commandé. Le Mali n'a jamais commandé une nation.
D'accord.
Donc la Suisse n'est pas obligée d'aider le Mali. Ça, c'est des symboles forts qui prouvent que, à un moment, si on accuse les politiques aussi s'imposaient. Le président Moussa Traoré aussi, à son temps, a dit que le Mali va à l'école japonaise. Il a dit au sommet de la Bourse que la démocratie n'est pas une
canard. Badi avait des réactions par rapport au propos que tu tenais. Rapidement, Badi, en 30 secondes pour aller au second.
Ça va être assez rapide.
Oui.
Je réappuie encore ce qu'il a dit quand il parlait d'une certaine classe politique. Je reviens à Alpha Omar Konaré et sa femme, Adamba Konaré. Dans L'os de la parole qu'elle a écrit en 2001, a fait une critique acerbe de ce qu'est devenue la démocratie de par les acteurs politiques qui ont vendu un rêve à la population, qui ont mis la charrue avant le bœuf. Alpha Omar Konaré lui-même dit quoi? Je fais un parallèle avec le secteur minier et les audits et la crise qui a eu lieu.
D'accord.
Quand l'État malien a fait ses audits actuellement, on a vu des acteurs politiques, je ne vais pas citer leurs noms, qui ont dit à l'époque que l'audit ne respectait pas un certain nombre de critères, qu'on veut abuser, ce n'est pas la bonne manière. L'histoire a fini comment? Un arbitrage international que le Mali a gagné. Pourquoi l'homme politique il dit ça? Il a des intérêts.
Absolument.
Il a des intérêts. Et Alpha Omar Konaré dit quoi? Il dit le plan d'ajustement structurel pour faire face aux multinationales qui s'imposaient à lui, il avait besoin d'un certain climat. Ce climat est entretenu par quoi? Il dit qu'il y a six. Il veut faire face à ces multinationales, il faut qu'il y ait la solidarité. Or, il y a des acteurs politiques qui défendent d'autres intérêts, qui créent le trouble. Ça ne vient pas de moi, hein. Ça vient de Alpha. C'est ce jeu d'opposition majorité, c'est cette vision de la politique, moi ou le chaos. C'est pas moi qui le dis. C'est Alpha Omar Konaré qui l'a dit. Et si on était dans ce climat-là, vous pensez qu'on allait avoir tous ces résultats? L'audit minier, ça n'allait pas passer. Ils allaient crier partout. Alors, moi, ça ne vient pas de moi. Ça vient du couple présidentiel.
Très bien, c'est là
je suis. Je d'abord à M. Sidi Koba qui dit on n'a pas besoin de donner sa part de vérité. Nous étions tous là. Tu peux ne pas aimer la France. Tu peux ne pas aimer Djamouna. Mais si. Si la France n'avait pas intervenu au soir à Conan, non, je vous en prie, je ne vous ai pas interrompu. C'est ce que je vous dis chaque fois, vous mentionnez ce qu'on appelle la courtoisie intellectuelle. Vous avez déroulé aussi, je ne vous ai pas interrompu, M. Badi.
Allez-y,
c'est
la parole,
vous comprenez. Et si la France n'avait pas intervenu à Conan, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est une réalité que personne ne peut nier. Deuxièmement, je dirais que, et par rapport à Diallo, vous savez, le 22 mars 1991, j'étais parmi ceux qui ont marché sur l'ancien lieu de travail de Moussa Traoré. Heureusement, on a échappé à des tirs de Berlin. Voilà. J'ai vécu le 22 dans ma chair et dans ma noce. Voilà. Dans ma noce. Du 22, 23, 24. Et les premiers qui sont arrivés à la Bourse du Travail, au soir du 25 mars 1991, j'étais parmi ceux qui sont arrivés à la Bourse du Travail pour applaudir le coup d'État.
D'accord.
Vous comprenez? Mais je veux tout simplement sortons de cette phraseologie qui veut dire que des politiques de première classe, de politiques secondaires, non, le particulier est général, mais le général n'est jamais particulier.
Ok,
on veut. Non, écoutez, il faut qu'on sorte de ça. Vous savez, les politiques ont fait ce qu'ils peuvent pour ces pays-là. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui.
Personne ne peut nier les acquis de la politique.
Mais derrière,
je vous apprends. Je vous apprends. La libération de l'économie. Si on en a aujourd'hui, il parle de l'ACI. L'ACI, c'est quoi? C'est le prolongement du projet urbain de Moussa Traoré. C'est le projet urbain de Moussa Traoré qui a été transformé en ACI. Vous comprenez? On n'a pas cherché lui. C'est juste le projet urbain de Moussa Traoré qui a été transformé en ACI. Mais la politique, tout ce qu'on dit, c'est des préjugés.
D'accord.
Écoutez, sortons de ça. Écoutez, on fait ce qu'il peut pour ce pays-là.
D'accord.
Personne ne peut le nier. Peut-être comme même comme les militaires, peut-être à un moment donné, ils ont failli. À un moment donné, ils ont pris une décision. Ça, c'est inhérent à tout homme, si ça soit militaire ou politique.
C'est vrai,
même souvent, en pleine guerre,
les militaires peuvent être. Nous devons aller directement au discours de la nation du chef de l'État. Nous n'avons pas le temps. On aurait quand même souhaité parler des perspectives. Mais en tout cas, cette deuxième partie nous permettra de parler des perspectives parce que le président de la transition a déjà planté le décor hein, avec en tout cas un discours d'une vingtaine de minutes rapidement toujours monsieur Diallo le discours du président de la transition, nous n'avons que 10 petites minutes pour clore ce débat là.
Bon, le discours du président de la transition, bon, déjà le débat l'entre parenthèse qui nous oppose tout de suite là, trouve sa réponse je pense dans le discours du président il dit 2026. C'est vrai, 2025, dans l'application, dans la mise en œuvre des recommandations des ANR, il a été amené à organiser une concertation nationale à l'issue de laquelle alors, il a été demandé de dissoudre les partis politiques. Donc 2026 sera l'année où les concertations seront lancées encore pour discuter de la loi, la nouvelle loi qui va parler de l'autorisation des partis politiques, l'exercice des partis politiques. Maintenant, je pense que ce débat-là va être clos, définitivement, et puis les gens, les acteurs politiques vont retrouver leur champ et le pays va repartir encore sur de nouvelles bases politiques. Et ce serait encore mieux, ce serait mieux. Mais je pense qu'on doit tirer des enseignements. On doit tirer des enseignements de ce qui n'a pas marché pendant cette période de démocratie dans la Troisième République. Il y a eu beaucoup de manquements, surtout du côté moral. C'est là où tout le problème se pose. Le vol est devenu le normal au Mali. L'anormal est devenu, l'exception est devenue la règle au Mali. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'exception est devenue la règle au Mali. Comment j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, imaginez, quelqu'un qui sort du meilleur, nous on est né ici à Bamako. On a vu des gens réussir par leur propre sueur. Mais des gens qui c'est-à-dire que de n'importe où, ils viennent, ils sont banalement riches. D'où vient cet argent-là? On sait quand même que de façon traditionnelle, si on doit parler de ressources, de richesses, c'est toujours des grandes familles
d'accord.
qui étaient fortunées. Parce que la richesse, c'est un effort collectif. Mais un individu qui sort de n'importe quelle planète qui devient riche banalement, ça veut dire que ça ne va pas.
Mais cette pratique, est-ce qu'elle a commencé sous la transition avant la transition?
Mais elle s'est exacerbée pendant la démocratie.
Ah, d'accord. Je crois que vous parlez
de... Pendant la période de 10 ans de Alpha, 10 ans de ATT,
d'accord.
Et les 10, presque 10 ans de IBK.
Et aujourd'hui, est-ce que nous sommes avec ces pratiques-là?
Aujourd'hui, les pratiques ont les têtes, comme on dit, ont la tête dure. Les pratiques ont la tête dure, ce n'est pas facile d'enlever à quelqu'un ses habitudes.
Mais qui dit mensonge, monsieur Diallo?
Oui,
le mensonge.
Le mensonge? Mais le mensonge est devenu notre monnaie courante. Chacun, on ment partout. Partout, un moment, le mensonge était même devenu un mode de gouvernance. Le gouvernement mentait à longueur de journée et ça se vérifie tous les jours.
D'accord.
Donc, du coup, moi je pense qu'il faut tirer enseignement de tout ça pour que dans la nouvelle loi qui va gouverner les activités des partis politiques, que cette loi-là prenne en charge tous ces détails.
D'accord.
Et puis prévoir. En tout cas, prévoir des lois d'application, des lois, disons, d'accompagnement,
okay.
hein, des lois organiques
d'accord.
qui vont prohiber encore davantage
okay.
la corruption, le mensonge, surtout le mensonge politique et public. Le mensonge politique et public. Quand un gouvernement ment, et quand ici ça se confirme que c'est faux, il doit rendre compte.
Badou, rapidement par rapport au discours de la nation du président, on est très pris par le temps, Badou.
Bon, quand un clandestin accuse un clandestin de clandestinité, je ne sais pas comment le dire, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais il faut dire que lors de son discours, j'ai retenu cette phrase, boussole stratégique, vision prospective, Malikoura, Nietasira, Kabin, 2063. Ça veut dire que déjà, le chef de l'État a une vision claire de l'évolution du Mali sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan social.
Okay.
C'est une vision. C'est une vision qui doit être concrétisée. Et la concrétisation de cette vision passe par le concours de l'ensemble du peuple malien. Il l'a dit, il faut un effort collectif. L'effort ne doit pas être individuel. Je crois que nous devons sortir de l'individualisme, des acquisitions stériles pour aller de l'avant. Il est grand temps. Parce que de 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a eu que des acquisitions. Et à chaque fois, on accuse l'autre d'avoir détourné ça, d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. On a toujours avancé un argument pour pouvoir s'emparer du pouvoir. Je crois qu'il faut que nous sortons de ça, soyons réalistes. Il faut que nous allions de l'avant. Parce qu'il est grand temps que vraiment le pays puisse évoluer vers des lendemains meilleurs. Parce qu'à force d'accuser l'autre, il n'y aura pas de réconciliation nationale. Je me rappelle bien, pour terminer, en 2011, ATT a été l'invité surprise d'un événement où les leaders du PSP et les leaders de l'USRDR vraiment se sont donné une accolade pour enterrer la hache de guerre. C'était pathétique, c'était très... Donc le Mali a besoin de cela aujourd'hui. Je crois que sortons des accusations et voyons dans la même direction pour pouvoir sortir ce pays de l'ombre. Je crois que tout le monde a fait ce qu'il a pu à un moment donné, mais nous sommes ce que nous sommes. Dans une gestion, il y a toujours des hauts et des bas. Voilà.
Très bien. Badi Haïdara, rapidement.
Je ne reviendrai pas sur l'aspect politique. Je pense qu'il y aura d'autres
éditions. Il y a que 30 secondes.
Où on reviendra sur ces choses-là. En tout cas, j'aimerais revenir sur la concrétisation et l'opérationnalisation de l'AES. Donc 2026, en termes de perspective de l'AES, c'est vraiment les grands projets de la banque qui vont démarrer. Nous osons espérer qu'ils vont s'attaquer à des projets structurels. J'espère que le fameux barrage de Taoussa pourra bénéficier d'un coup de pouce dans ce sens-là. D'accord. Parce que l'un des facteurs du terrorisme aussi, c'est quand même un terreau fertile, même s'il y a des sponsors internationaux, ça profite d'un terreau fertile. Et je pense que ce barrage de Taoussa est assez attendu et il va bénéficier au Niger et aux autres pays de l'AES. Donc nous attendons les projets structurants. Il y a la compagnie aérienne de l'AES, il y a le chemin de fer, non pas qui va commencer, mais qui sera en phase projet et étude va être entamée, Bamako, Ouaga, Niamey. Donc dorénavant, l'avenir du Mali, c'est l'avenir de l'AES. L'avenir de l'AES, c'est le Mali. Le Mali, c'est l'AES. L'AES, c'est le Mali.
Il y a l'autorité de
la fédération.
Abdallah Yattara.
Comme vous avez dit rapidement, je veux dire que chaque régime au Mali de 60 à 2025 a connu son scandale financier et ses scandales financiers. Chaque régime au Mali de 60 à aujourd'hui a connu ses millionnaires, 60 peut-être, mais ses milliardaires aussi, de 60 à 65.
D'accord.
Ce n'est pas les politiques seulement. Comprenez, chaque régime a connu son scandale financier.
D'accord.
Même sur cette transition, on peut citer Energy Gate. Non, je viens. Energy Gate.
Pas sur tout le nom.
Non, je dis pas le nom.
D'accord.
Energy Gate, Engrais Gate, Fonction Publique Gate, Mouvement Social Gate. On n'en finira pas.
Pour le moment,
les presse Gate. Non, pour le moment, c'est pas. Donc, je vous en prie, mettons pas la terre.
D'accord.
Redressons ce pays-là ensemble. Oui, le discours, c'est un discours classique. Vous comprenez, c'est un discours classique qui a toujours tourné autour de l'économie, de la justice, de la paix, de la sécurité. Mais je retiens seulement deux points. Le premier point, c'est quoi? C'est qu'il a dit la paix ne s'impose pas, elle se construit. Vous comprenez? Sauf qu'on a l'impression qu'on veut imposer la paix par la guerre. Vous comprenez? Je vous en prie.
Allez-y.
J'ai l'impression quand il y a la là pour l'argument. Mais quand les autres ont la parole, ça se Donc, il a la charge pour la paix que c'est l'évier, que lui-même il a promu sous forme de loi qui peine à être mise en place. Il y a aussi le dialogue intermalien, thématique paix et sécurité. Mais oui, la paix se construit. Mais il va falloir que les leviers que lui-même s'est donné, à travers la nation, qu'il puisse aussi mettre ses leviers à part. Pour finir, oui, ceux qui pensaient que la politique était déjà morte, il a donné espoir aussi aux gens. Il a dit 2026, ce sera une nouvelle concertation pour effectivement mettre en place la nouvelle charte des partis politiques. Oui. C'était une conférence, ce qu'on appelle une conférence des forces vives, mais il ne faut pas que ce soit les forces vives qui ont dissous les partis politiques. Et du coup, c'est 90% vient des seuls ministères.
D'accord, c'est bien sûr. On ne vous en parle pas. Je voudrais rappeler que le procureur Timbo a dit que 4 ministres ont détenu 4 ministres.
J'en ai fini. On est pris par le temps. Oumar, Ojalo, rapidement, la personnalité de l'année, selon vous, en un mot.
La personnalité de l'année. Bon, ça, c'est le président de la transition.
Vous
Le président du Burkina Faso.
Je parle du Mali.
Ah, du Mali. Oui. Moi, je réfléchis à l'échelle AIS.
D'accord. Vous,
la personnalité de l'armée au Mali,
oui.
Monsieur le Mali.
Oui, il a marché sur ma langue.
D'accord.
J'allais dire que ce sont
les Maliens. Ouais. Alors, bravo aux Maliens avec leur patience, leur résilience, mais également leur patriotisme avéré. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il fallait rapidement retenir de ce débat, de ce dimanche. Nous présentons nos excuses auprès de la direction qui nous, en tout cas, met à la pression, hein, comme quoi qu'il est l'heure. Chapeau à vous, voilà, sans vous, nous ne sommes pas à mesure de passer à l'antenne. En tout cas, clin d'œil à la grosse équipe, à sa tête, Augustin Choubéi, Lamine Koulibaly, Fatmata Traoré, Moulay Touré, Youssouf Sangaré. Retrouvez la diffusion de cette émission dès demain lundi aux environs de 9h. Une seconde de diffusion est prévue pour le mardi. Ce sera aux environs de 22h. D'ici là, nous passons de bons moments de télévision en compagnie de la première chaîne d'information du Mali. Au revoir et à dimanche prochain. Merci.